Allô, allô. Ici la Terre, vous m'entendez? Vous êtes sur quelle planète là? Ok, ah ouais, là vous m'entendez bien. Super. Trop bien. Eh bien, bonsoir à tous, je suis content d'être avec vous ce soir, c'est vraiment cool. Alors, moi je viens de Lyon avec une petite équipe, on vient juste d'arriver au pays de la Flamencuche. C'est vraiment trop cool, c'est trop cool d'être là. On n'a pas encore mangé de Flamencuche, mais. C'est cliché peut-être de dire ça, hein. Mais en tout cas, on se réjouit d'être là. Alors, on m'a présenté tout à l'heure, on m'a dit que j'avais 24 ans, 4 enfants. Je sais, c'est... vous dites, mais comment il a fait ? À 16 ans, j'ai commencé. Non, je rigole. Non, j'ai pas 24 ans, j'ai 35 ans. Mais merci les gars. Excellent. Mais ouais, c'est super d'être ensemble et puis je me réjouis vraiment de partager avec vous un bout de la parole de Dieu, un bout de ce que Dieu nous dit. Parce qu'il y a un thème qu'on voulait aborder avec vous ce soir, c'est la question de la réussite. Alors je ne sais pas si tu peux passer juste la slide, alors je crois que ma télécommande ne marche pas. Ah si, yes. Comment réussir sa vie ? Je ne sais pas si vous avez, on vous a posé cette question, ou alors, en tout cas, vous voulez être posé, mais elle met la pression, cette question, non ? Je ne sais pas si vous êtes à l'aise, mais la question de la réussite, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Je me la suis posée, moi, quand j'avais 15 ans, et je me souviens avoir, aller sur les, la concert d'orientation. Alors là, tu fais des tests, tu remplis des trucs, et voilà, l'idée, c'est de trouver un peu ton métier. Et je me souviens que la période de 15, quand j'avais 15 ans, c'était juste un peu l'angoisse, parce que je ne savais pas du tout quoi faire. Et je me souviens d'avoir fait ces tests, et alors c'était assez drôle, parce qu'après, du coup, ils te proposent plein de métiers. Et il y avait un métier, c'était créateur de chaussures. Alors, j'ai rien contre les créateurs de chaussures, hein. Peut-être qu'il y en a ici. Mais moi, j'étais là, c'est bizarre, quoi, et tout. Après, notre truc, c'était testeur de nourriture pour chien et chat. C'est un vrai métier. Hein. Non, je rigole, on ne m'a pas proposé ça. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, tu peux arriver à ça. Mais... Non, j'avais des trucs, voilà, je ne me projetais pas du tout. Alors, il y avait un truc, c'était architecte. Je me suis dit, ah ouais, ça, c'est fait classe. Bon, finalement, je ne fais pas architecte. Hein. Mais ouais, je trouvais que ce n'était pas facile, en fait, cette question de la réussite. Il y a comme une sorte de pression où il faut réussir, il faut à tout prix avoir un bon métier et tout ça. Et moi, je n'étais pas du tout dans ce délire-là. L'école, ce n'était pas au départ quelque chose que j'aimais. Qui aime l'école ici ? Il y a quelqu'un ? Ah si, si, quand même. Hop, chérie. Moi, en tout cas, c'était... bravo, bravo à vous. Mais oui, moi, j'étais plus dans la peinture. Je faisais du graffiti et aussi voilà, du roller, alors, je sais que c'est plus trop la mode, mais... et puis voilà, tout ça, ça me réussissait bien. Et je me dis, voilà, moi j'avais l'impression d'avoir de la valeur grâce à ça. Et puis, plus je pratiquais la peinture et tout ça, plus je me rendais compte encore que j'en avais... ça ne me suffisait pas. Et parfois, il y a un peu cette... On nous vend que la réussite sociale, elle nous vend la paix, un bonheur durable. Mais quand on l'atteint, en fait, on se rend compte que ça ne remplit pas notre cœur de paix et de bonheur durable. Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience. Moi, j'ai une fois rencontré le grand-père de mon épouse qui a monté une entreprise et qui a aussi fait énormément de choses, une grande carrière. Et puis, arrivé à la fin de sa vie, il a revendu son entreprise. Mais c'est comme s'il avait revendu son âme, en fait. Et il arrive en fin de vie et tout ce qu'il a pu monter dans sa carrière, finalement, se retrouve comme évaporé. Ouais, tellement aigri parce que dans sa famille, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et puis, comme si il y avait quelque chose qui le frustrait constamment. Et parfois, j'ai vu cet espoir dans la réussite qui a finalement s'est vite évaporé. Et c'est un peu la question qu'on aimerait se poser ce soir. C'est pourquoi, en fait, finalement, on essaye de courir après la réussite ? Pourquoi c'est si important ? Et peut-être que c'est ouais, parce qu'on veut être heureux, parce qu'on veut trouver la paix, ou parce qu'il y a comme un danger qui nous place dans une peur. On veut quitter cette peur. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'en dit la Bible? Et moi, j'aimerais vraiment qu'on essaye de voir qu'est-ce que la réussite selon Dieu. Et est-ce qu'il n'y a pas finalement une réussite qui nous est présentée par Dieu, qui pourrait fonctionner, quoi? Alors, je ne sais pas si vous connaissez les super notices IKEA, mais je vois un peu la Bible comme une notice. Et c'est comme si Dieu nous avait donné comme un mode d'emploi pour cette vie. Cette vie, elle est un peu complexe. C'est pas tout simple. Pour certains, c'est plus dur que pour d'autres. Mais la Bible, c'est comme finalement une notice. Et vous savez, des fois, on a un peu cette fierté de vouloir monter un meuble IKEA sans notice. Ça vous arrive, ça, ou pas? Moi, ça m'arrive. Je prends un meuble et puis je me dis, non, mais je vais essayer d'y arriver et tout. Et après, tu te retrouves avec un meuble un peu comme ça, tu vois, où t'es un peu genre saoulé parce que ça a mis 4 heures, en fait. Et puis ton meuble, il ressemble un peu à ça, quoi, tu vois. Tu te dis, il y a un truc qui va pas. Je crois qu'il y a un truc qui manque. Alors du coup, moi, j'aimerais vous proposer vraiment d'essayer d'étudier la parole. Parce que la parole, je crois vraiment, et moi, je l'ai expérimenté, c'est comme une notice pour nos vies. Alors oui, vous allez me dire, peut-être c'est un peu dur à lire et tout. Mais je vous encourage à faire l'effort. Parfois, c'est vrai, il faut lire une notice. C'est compliqué, les notices. Mais si derrière, tu peux construire une vie qui est solide, une vie qui a vraiment du sens, une vie où tu sais que tu ne passes pas à côté de quelque chose, ça vaut le coup, non? Ça vaut le coup. Alors, je vous propose qu'on se plonge dans la parole. Et on va regarder un passage justement qui va parler de réussite. Et d'ailleurs, c'est vraiment un passage profond qui, moi, me bouleverse, que je trouve vraiment beau, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et c'est Jésus qui est avec ses disciples. Et en fait, on est, voilà, il y a plus de 2000 ans, hein, c'est un passage qui date. Mais pourtant, il parle de quelque chose de très, très actuel. Et puis, on va voir que Jésus, il est avec ses disciples. Et il va leur annoncer un truc assez hardcore. Les disciples sont avec Jésus, ils se disent « Ouais, c'est super, Jésus fait des trucs de ouf, fait des miracles et tout. » On est dans la bonne team. On est dans le camp des gentils. Et donc, ça va bien se passer pour nous, c'est trop bien. Mais Jésus, il leur dit un truc. Il arrive vers la fin de son ministère, il leur dit « Les gars, on va à Jérusalem, il va se passer un truc de ouf. » Et je vous propose de lire ce passage. Jésus se rendait à Jérusalem. Il prit les 12 disciples à part et leur dit, tout en marchant, « Écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et au maître de la loi. » Donc le Fils de l'homme, c'est Jésus, hein, c'est son nom qu'il prenait. « Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui. Le frapperont à coups de fouet et le cloueront sur une croix. Et le troisième jour, il reviendra de la mort à la vie. Alors la femme de Zébédée, s'approchant de Jésus avec ses deux fils, elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. Que désires-tu ? Lui dit Jésus. Elle lui répondit, promets-moi que mes deux fils que voici siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. On va s'arrêter là, sur ce passage. Ce passage, il est un peu ouf, non? En fait, pour vous recontextualiser l'histoire, là, Jésus, il leur dit un truc de ouf. Il dit, voilà, vous savez, en fait, on était bien là, mais il va se passer un truc de fou. Je vais être condamné à mort. Je vais passer un moment vraiment difficile. On va me battre à coups de fouet. Et je vais être crucifié. Je vais être crucifié nu sur la place publique. Ça va être un truc de fou. Et il leur dit après, et puis je vais ressusciter 3 jours après. Truc de fou. Mais là, il se passe un truc un peu, un contraste un peu, c'est que la mère de deux disciples, donc les fils de Zébédée, ces deux disciples des 12 disciples qui étaient là, la mère, elle se met à genoux comme ça, elle dit, mais s'il te plaît, fais que mes deux fils puissent quand même être à une bonne place dans ton royaume. Vous voyez le contraste un peu fou, tu sais, c'est genre, les gars, je vais galérer. Ouais, mais s'il te plaît, tu peux nous filer de la thune quand même avant. Tu sais, genre, ok, tu vas galérer, mais tu sais, nous, on aimerait bien, quoi. Vous voyez le truc? Et c'est un peu fou ce contraste, mais parfois, c'est un peu ce qu'on vit, nous, en tant que croyants, même, peut-être enfants de croyants, enfants de famille chrétienne. On sait ce que Jésus, il a fait. On se dit, ouais, ok, Jésus, il est mort sur la croix et tout, ça a été un truc de ouf. Mais quand même, Dieu, tu pourrais m'aider, parce que là, pour l'instant, je ne crois pas trop en toi. Tu sais, j'ai besoin d'un peu plus de preuves. Eh, mais je suis mort pour toi, mon gars. J'ai fait un truc hardcore. Ouais, mais tu vois, j'aimerais bien être plus béni quand même. Vous voyez le truc? Et là, ben, en fait, la maman des disciples, elle implore, et d'ailleurs, dédicace à toutes les mamans. Vous avez des mamans protectrices un peu comme ça? Est-ce qu'il y en a des... Ouais, ça parle pas trop, mais je sens qu'il y en a. Et en fait, c'est pas que la maman. On voit dans un autre passage que ces deux fils, Jacques et Jean, bah, ils voulaient vraiment être bien placés dans le royaume de Jésus. Ils voulaient vraiment être proches. On sait pas, je pense qu'ils aimaient vraiment Jésus, mais tu vois, ils voulaient pas trop galérer, quoi. Ils voulaient être bien dans le royaume, tu vois, sur un trône limite avec au moins, tu vois, de l'argent et quelques petits diamants. Non, je rigole, mais voilà. En fait, ils avaient un profond désir de réussite sociale. Ils voulaient être bien placés dans le royaume, et peut-être que ça montre qu'ils avaient peut-être une peur à l'intérieur d'eux. Quand Jésus dit qu'il va y avoir des tensions, il se dit « Ouais, mais si je suis bien placé dans ton royaume, je vais peut-être moins galérer, tu vois. » Ici, on voit dans ce passage qu'il y a un contraste. Jésus, lui, il a une mission, et sa mission passe par le rejet et l'épreuve. Et nous, très souvent, l'être humain, notre mission dans notre vie, c'est des fois d'éviter à tout prix le rejet et l'épreuve. Vous voyez le contraste? Des fois, notre vie, on passe notre temps à juste chercher le confort, pas d'épreuve. On ne veut pas de rejet. On veut une réussite sociale parfaite. Mais lui, Jésus, c'est tout l'inverse. Il est en train de leur dire qu'en fait, sa mission, c'est justement d'être rejeté et de passer par l'épreuve. Enfin, ce n'est pas sa mission en tant que telle, mais elle va passer par là. Et on lit dans la suite du passage, donc je vous lis la suite. Même avant de vous lire la suite, j'aimerais vous dire quelque chose. Ouais. En fait, vous voyez ici, il y a un contraste. Pardon. Il y a un contraste avec ce que dit Dieu et des fois, nous, ce qu'on pense de Dieu. Et moi, j'aimerais inviter justement un ami qui est là, qui est mon pote de l'église de Lyon, qui va nous raconter un peu son histoire, parce que c'est vrai que parfois, on a une vision de Dieu qui est un petit peu faussée. Et moi, je trouvais ça cool que Romain, tu puisses nous raconter un peu comment toi, t'as cheminé. Alors, Romain, il vient pas d'une famille croyante, donc il a découvert Dieu petit à petit, et je trouve ça vraiment super de nous raconter un peu ton expérience. Ça marche ?
Ça marche. Oh, ça marche. Trop bien. Yes. Ouais, écoutez, je suis super content de pouvoir vous partager un petit peu de mon expérience. Donc voilà, comme a dit Jean, moi je viens de famille qui n'était pas chrétienne, pas d'arrière-plan chrétien, mais très tôt, je me suis intéressé à Dieu, à la question de est-ce que Dieu existe, de la spiritualité. Mes parents n'avaient pas trop de réponses, et donc j'ai cherché un petit peu par mes propres moyens, puis arrivé à un âge un peu plus de raison. J'avais des gens qui pratiquaient du New Age, vous voyez, des arts un peu qu'on pourrait appeler occultes autour de moi, de l'ésotérie. Et ils m'ont vendu ça un peu comme la voix de Dieu. Et moi, j'étais super content parce qu'en fait, je cherchais un truc dans ma vie, c'était d'être proche de Dieu. Alors, je n'ai jamais lu la Bible, je ne connaissais rien, mais j'avais cette aspiration. Et puis, ils m'ont vendu ça comme le truc vraiment. Donc, moi, je me suis lancé dans le magnétisme. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'art de contrôler les énergies pour guérir les gens. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans des forêts énergétiques. J'ai traîné dans plein de domaines spirituels. J'ai fait du bouddhisme. Je suis allé voir des voyants. J'ai fait plein de choses, de la méditation. Et pour moi, c'était vraiment le but, c'était de servir Dieu, de le rencontrer. Et puis en fait, très rapidement, donc j'ai magnétisé des gens, puis je voyais qu'il y avait du mieux dans la vie de certaines personnes. Et j'étais super content, hyper zélé. Et puis en fait, assez rapidement, après des exercices magnétiques, je me suis retrouvé en fait à avoir une première insomnie, comme s'il y avait quelque chose qui venait dans ma chambre, une présence, vous voyez le genre de truc, un peu flippant, ça ne m'était jamais arrivé, et puis en fait ça ne m'a pas lâché. Pendant des mois, c'est resté dans ma vie, et je suis devenu insomniaque. J'avais des visites qui étaient vraiment hardcore. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et je commençais vraiment à souffrir. Personne ne me comprenait. Enfin, vous imaginez le truc. J'avais 20 ans. Et je n'osais même pas en parler. Les gens vont dire, t'es un dingue, toi, en fait. Tu vois, même mes parents voyaient que ça n'allait pas trop. Ma femme aussi, qui était ma petite amie à l'époque, elle voyait que ça n'allait pas. Personne ne pouvait m'aider. Et puis, je me suis mis un jour à prier, à crier à Dieu, alors ce Dieu qui était le mien, j'ai dit à Dieu, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Moi, je voulais te servir, je voulais faire des trucs, puis là, je me retrouve en pure galère, je ne peux plus dormir. Et puis, j'ai eu une pensée extrêmement forte, je n'avais jamais vu de chrétien, je n'étais jamais allé à l'église, une pensée extrêmement forte qui me disait de lire la Bible. Je ne savais pas ce que c'était la Bible, hein. Je croyais que c'était un vieux bouquin, je n'avais pas du tout confiance. Et puis, j'en ai trouvé une, je l'ai lue comme un fou. Et je me suis rendu compte que le magnétisme, l'ésotérie, l'occultisme, du coup c'était de l'occultisme, c'était pas la voie de Dieu. Je pensais que c'était la voie de Dieu, mais je m'étais trompé. Et j'étais vraiment dans la souffrance parce que cette insomnie, ces présences, ça partait pas, c'était tout le temps là. Et puis, ouais, je demandais à Dieu de m'aider. J'étais pas encore arrivé aux évangiles, j'étais dans l'Ancien Testament, vous imaginez le truc, hyper complexe à lire, mais j'étais super content de voir ce Dieu-là. Et puis un soir, je me couche. Je réussis à m'endormir, ce qui est plutôt cool. Et là, je fais un rêve. D'ordinaire, les rêves ne m'impactent pas trop. Mais ce rêve-là, celui-là, il m'a marqué à vie. Et je ne l'oublierai jamais. En fait, c'était. Alors, c'est un rêve. Hein. Ça commence toujours bizarrement, les rêves. Je ne sais pas si vous voyez le truc. J'étais dans le rêve. Et puis, dans ce rêve, il y a une femme. J'étais dans un quartier et tout. Puis, il y avait un gars et une femme. Puis, le gars, il voulait s'en prendre à la femme. Il voulait lui faire du mal. Je ne sais pas. La taper, c'était assez violent. Et moi, il y avait plein de gens, puis je dis au gars, il faut aller l'aider, cette femme, il faut aller l'aider et tout. Et puis personne ne bougeait. Tout le monde s'en fichait, en fait. Donc j'ai dit, bon, quand même, j'y vais, quoi. Je vais tout machin devant le gars. Je dis, toi, arrête. Et il me regarde. Et puis, très doucement, il me met juste un coup comme ça, à peu près comme ça, voilà. Sauf que je prends une telle décharge que je vole à 10 mètres derrière un truc de malade, mais je vole et puis je retombe vraiment tout doucement dans de l'herbe. Jusque-là, vous me direz, c'est un rêve. Hein. Ouais, c'est un peu chelou. Hein. C'était ça. Et je tombe et tout. Puis le gars, il approche vers moi. Il a un vêtement tout bizarre, tout abîmé. Et puis il s'approche et tout. Et là, je ne sais pas comment c'est possible. Mais mon âme a reconnu qui c'était. Pourtant, je n'avais jamais lu les évangiles. Jésus, on connaît tous à peu près les images qu'on en a et tout. Mais bon, je n'étais pas proche de Jésus, hein, vraiment. Et je le regarde et tout, puis je suis parti, je dis, mais toi, je te connais. J'avoue que j'ai quand même un peu de culot. Hein. Je dis, je te connais en fait. Mais t'es le fils de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai reconnu. J'ai dit, t'es le fils de Dieu, comme si mon âme, elle savait. Je dis, mais t'es le fils de Dieu et tout. Et puis là, son vêtement, il commence à changer. Il devient blanc, pur, sans tache. Et je dis, mais t'es le fils de Dieu, pourquoi tu me tapes? Normalement, tu devrais m'aider. C'est quoi ce truc-là? C'est pas normal. Il y a un problème, là. Toi, t'es gentil, normalement, à ce que je sais, quoi. Et puis là, il me regarde et tout, et on est à une petite distance, et il parle pas, mais je l'entends dans ma tête. Et là, ça commence à devenir vraiment fort. Je suis par terre, et là, je peux pas me lever, en fait. Hein. Je suis bloqué. Et il me dit, dans ma tête, du coup, dans le monde d'où je viens, là d'où je viens, quand on frappe quelqu'un, c'est pas pour lui faire mal. Truc, je suis là, ok. Et là, en fait, il commence à rayonner une lumière de cette personne que j'ai jamais vue. Alors, j'avais fait des pratiques spirituelles. Hein. J'ai vu des trucs, hein. J'ai vu des choses puissantes dans l'occultisme, mais ça, j'avais jamais vu. C'était comme pire que regarder le soleil. Et cette puissance, elle commence à rayonner, puis je vois plus que son visage comme un soleil. Et je sais pas combien de temps ça dure, mais ça me remplit, ça me touche, j'en tremble et tout. C'est hyper puissant et hop, je me réveille. Et je tremble, j'ai jamais fait un rêve comme ça. En fait, j'avais vraiment l'impression d'y être, mais j'y étais, j'étais comme rempli, j'avais de la chaleur, c'était un truc de dingue. Et puis, ce rêve, il restait mystérieux pour moi. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi, ce rêve? C'est quoi, en fait? Et puis, je me suis intéressé à Jésus, à la Bible, et puis en fait, je me suis rendu compte que notre cœur, il est tellement dur en tant qu'être humain, que parfois, si on ne passe pas par certains moments de sécheresse, de difficulté, c'est pas que Dieu il prend plaisir à ce que tu sois en galère, en fait, hein, mais c'est toi, tu es tellement dur, j'étais tellement dur, que si je ne serais pas passé par là, je ne sais pas si j'aurais rencontré Jésus, je ne sais pas si j'aurais rencontré vraiment Dieu. Et ce truc de me dire là d'où je viens, quand on frappe quelqu'un, c'est pas pour lui faire mal, c'était en fait pour me. Et bibliquement, on le voit, c'est que quand Dieu il permet que quelque chose t'arrive, c'est pas pour te faire mal. En fait, c'est pour te sauver. C'est dans tes galères, dans tes épreuves, si tu regardes bien, Dieu est là. Dieu est là et Dieu veut te parler. Et ces épreuves, elles sont là aussi pour qu'il se révèle à toi. Des fois, on a besoin d'être amené au bout du précipice. Et c'est à ce moment-là, je sais pas pourquoi, qu'on dit ok. En fait, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mais la vraie question, c'est ouais, qui n'a pas besoin de Dieu ? Et dans cette épreuve, en tout cas, dans ce rêve, et dans les épreuves que j'ai traversées, j'ai compris que derrière tout ça, Dieu allait me libérer, c'est ce qu'il a fait d'une manière extraordinaire. Mais en tout cas, ce rêve ouais, nous montre que Dieu ne veut pas nous faire mal, mais en fait veut nous sauver. Au travers, peut-être tu as des moments que tu vis qui sont difficiles, moi je te dis tends l'oreille. Peut-être que Dieu est en train de te dire quelque chose pour te sauver, tout simplement. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Merci. Yes. Merci Romain. Merci. Sacrée histoire. C'est pas toute la seule histoire de Romain. Demain, il racontera encore son témoignage pour ceux qui seront là demain matin et demain après-midi. Mais c'est chouette de voir ce que Dieu fait chez lui. Et c'est vrai, Dieu parle de manière, des fois, improbable, dans des rêves. Bien sûr, il faut voir si ces rêves correspondent à ce que la Bible dit. Mais moi, il me semble qu'en tout cas, Dieu était en train de parler vraiment à Romain. Et en fait, ce passage qu'on voit avec la maman qui supplie que ses fils ne souffrent pas et qu'ils soient dans le royaume, on va voir qu'il y a quelque chose qu'on peut retenir qui fait écho à l'histoire de Romain. Et du coup, je vous propose de lire la suite. Donc Jésus, il dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez, répond Jésus. » Donc il parle de ça parce que la maman, elle demandait, s'il te plaît, est-ce que mes fils peuvent être sur le trône avec toi et tout. Et Jésus, il dit, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire? Nous le pouvons, lui répondit-il. Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparés. » Ici, Jésus, il leur dit, voilà, vivre avec Jésus n'est pas facile. Et c'est pas très populaire. Il les prévient, il a dit, mais si vous voulez être avec moi, vous voulez me suivre, ça va être compliqué. J'ai l'impression que, Jésus leur dit, mais c'est comme si, il leur disait, j'ai l'impression que vous voulez être avec moi pour pas souffrir. Vous voulez être avec moi pour être tranquille, mais vous savez pas ce qui vous attend, si vous devenez disciple de Jésus, si tu deviens chrétien, il va y avoir des galères. Et si tu crois qu'en étant chrétien, tu ne vas pas avoir de galères, tu te trompes de Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu celui-là. Jésus, il a prévenu les disciples, leur dit, le chemin pour me suivre, il est étroit. Il n'est pas large, il est étroit, sinueux, un peu galère. Et si tu veux vivre avec Jésus, ce n'est pas facile. Parfois, il va y avoir des épreuves. Vous l'avez vu dans l'histoire de Romain. Et il a eu des galères, il a eu des épreuves. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Si tu as des épreuves et tu te dis, mais pourquoi ? Je croyais que quand on est chrétien, on n'a plus de galères. Eh bien, ce n'est pas vrai. Mais ça ne veut pas dire, et ça veut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, voilà, je vais galérer, je vais souffrir. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire ? Et en fait, les disciples, ils disent, bon, ok, on veut bien quand même un peu souffrir. Et puis Jésus va confirmer, parce que Jacques sera le premier martyr chrétien. C'est le premier qui va être lapidé pour sa foi. Et puis Jean aussi va être persécuté. Mais ici, on voit que voilà, ça va être ce qui va se passer, en fait. Et il leur confirme. Et puis, voilà, on voit qu'en fait, ici, la réussite selon Dieu, c'est pas éviter les souffrances. C'est pas ça. Il y a une part où ça va coûter quelque chose. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que la réussite pour ne pas galérer te rend vraiment heureux ? On l'a vu, Parfois, il y a des gens qui pensent que la réussite pour être bien confortablement assis dans une maison sur un trône, parfois ces gens-là ne sont pas heureux. Vous l'avez peut-être constaté. Il y a des gens, des stars qui ont vraiment la réussite sociale, pourtant sont en dépression. Il y a un truc qui ne fonctionne pas, ce n'est pas une sécurité qui fonctionne, qui est efficace. Et la question qu'il faut se poser, c'est ben, ouais, est-ce que j'ai vraiment capté que cette réussite ne marche pas ? Peut-être que tu as envie de réussir à tout prix aux yeux de tes parents, aux yeux de tes professeurs, aux yeux de tes potes. Est-ce que tu as bien conscience que c'est une réussite qui ne va pas t'amener un bonheur durable ? Parce que parfois, on s'accroche à ça. On, mentalement, on se dit « Ouais, c'est vrai que je vais essayer de ne pas faire ça », mais on agit en fonction de ça. Est-ce que ça suffit de se laisser guider par l'envie de ne pas souffrir ? Moi, j'ai envie de te dire non. Et c'est Jésus qui dit ça. Il dit « Si tu veux vraiment découvrir la vérité, avoir une réussite profonde, il ne faut pas que tu aies peur des épreuves. N'aie pas peur de la tempête. » Car de toute façon, elle va arriver. Ça, c'est la vraie vie. J'aimerais vous dire que la tempête n'arrive pas. Et peut-être que vous êtes jeune, vous dites, ouais, ça va, tout va bien. Mais en fait, la tempête, elle arrive. Ça peut être par ton travail, ça peut être par une maladie, ça peut être par des proches qui partent. Et ça, c'est la tempête, c'est la vie, c'est normal. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je fais avec cette tempête ? Comment je me prépare ? J'aime bien l'idée, l'image de la maison comme notre vie. Construire notre vie, c'est un peu comme construire une maison. Et si vous connaissez un petit peu la Bible, Jésus utilise cette image. Il dit que la maison peut se construire sur le sable ou sur le roc. Et pourquoi le sage construit sur le roc ? Pourquoi il est sage ? C'est parce qu'il pense à la tempête. En fait, il sait qu'il y a des tempêtes. Et donc, il se dit, je vais construire sur quelque chose de solide. Sur quoi tu construis ta vie qui est vraiment solide ? Si tu le construis sur tes capacités, tu risques d'être déçu. Tu risques d'avoir des fondations qui ne sont pas solides. Et le passage dit justement que le fou, il construit sur le sable. Et quand la tempête arrive, tout s'écroule. Toute ta vie, elle s'écroule. Et alors, tu as besoin, après, à ce moment-là, ce qui se passe, et j'ai des amis qui vivent ça en ce moment, ils ont construit leur vie sur leur couple ne va plus bien. Et du coup, il faut chercher à tout prix quelque chose d'autre, de plus solide. Et sans cesse, on cherche à nouveau une nouvelle fondation. Le passage nous dit que pour construire sa vie sur le roc, il faut s'appuyer sur les paroles de Jésus, sur Jésus lui-même. Ça, c'est le rocher. Ça, c'est le rocher. C'est, je vous disais tout à l'heure, la notice, c'est ça qui peut nous aider. Dans la parole, on voit quel est le fondement solide pour construire sa maison. Et dans le passage de cette parabole, il nous dit que c'est la parole qu'on applique, qu'on met en pratique. On croit et on agit en fonction de notre croyance. On croit en Jésus. Alors, voilà, ici, on a les deux frères qui entendent ça, que pour suivre Jésus, eh bien, ça passe par des difficultés. Et on va voir ce qui va se passer dans la suite du passage. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. » Il y a un enseignement assez intéressant ici, que Jésus met en garde sur cette réussite, la réussite sociale un peu, parce qu'elle a tendance à écraser les autres. Et là, on le voit bien, il y a les deux frères qui veulent à tout prix choper leur poste, donc ils veulent être sur le trône et tout, et puis les autres disciples font « Ouais, vous faites quoi là les gars ?» Vous voulez être plus fort que nous, en fait. Et donc, il y a une sorte de rivalité. Et parfois, c'est ce que provoque une réussite où on cherche à tout prix à être au sommet, quoi. On cherche notre confort et tout. Et parfois, ici, ça se passe même au niveau des chefs. Jésus dit, mais regardez, des fois, si vous cherchez du pouvoir, si vous cherchez à être sur le trône, est-ce que vous aurez la sagesse d'être un bon roi, de régner bien, de, bien comme il faut. Très souvent, on n'a pas les épaules pour avoir du pouvoir. Et il nous invite à l'humilité. Il dit, ben, les gars, si vous voulez chercher à être au top, faites gaffe parce que vous pouvez écraser les autres. Nos aspirations à la réussite peuvent faire du mal. C'est aussi quelque chose qu'on apprend dans ce texte. Et puis, le dernier passage, donc on continue. Jésus dit, au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est vénère comme moi. Il doit être votre esclave. La vraie grandeur, selon Jésus, c'est d'être serviteur. Voilà ce que nous dit Jésus sur la réussite selon Dieu. Tu veux réussir, sois un serviteur. Il va même plus loin, sois un esclave volontaire. Ce n'est pas soit un esclave que tu n'as pas choisi. Non, c'est tu choisis d'être un esclave. C'est vénère comme truc. Mais en vrai, si tu prends cette image, ça veut dire que tu es prêt à aider les personnes de manière inconditionnelle. Tu aimes les gens sans vouloir rien en retour. Tu n'as pas de salaire. Tu n'es pas un ouvrier. Tu es serviteur et tu ne cherches pas de salaire. C'est fou comme truc. Hein. Mais voilà, Jésus, il ne dit pas... C'est pas bien d'être grand. Vous avez remarqué, c'est pas bon. Il dit pas, c'est pas bien d'être un leader. C'est pas bien de chercher à avoir de l'influence. Il dit juste, si tu veux être grand et avoir de l'influence, sois un serviteur. Vous allez me dire, ah, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Mais vous imaginez si on vivait tous comme ça, si on suivait vraiment ça. La grandeur, c'est d'être serviteur. Purée. Ça changerait tout. Mais honnêtement, est-ce que votre cœur veut être serviteur ? C'est dur, hein ? Moi, je galère, hein ? J'aime Dieu. Mais parfois, j'ai envie que ce soit moi au centre et Dieu qui me suive. J'ai envie de dire à Dieu, viens, suis-moi Dieu. Dans mon truc. J'ai des projets, je veux faire plein de trucs. Et Dieu, suis-moi. Mais ce n'est pas ce que Jésus l'a dit. C'est Jésus qui a dit, suis-moi. Est-ce que tu veux suivre Jésus vraiment ? Est-ce que tu veux être serviteur de Jésus ? Nous voulons être servis. Nous sommes d'accord que Dieu vienne nous aider. Mais est-ce que nous voulons être serviteurs ? En fait, on veut être un peu Dieu, quoi. Mais la suite du passage nous donne un espoir juste incroyable. Franchement, la suite du passage, moi, il me bouleverse et j'aime tellement ce passage. Jésus dit, mais vous savez, c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Le Fils de l'homme, Jésus, n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. C'est incroyable, la chose que nous, on n'arrive pas à faire. Dieu, le grand Dieu tout-puissant, lui, il l'a fait. Il est venu sur cette terre, et puis le début du passage, rappelez-vous, il nous dit, ben, je vais souffrir. Je vais le souffrir et je vais prendre toutes vos fautes. Et je le fais parce que je vous aime. Parce que je sais que vous n'arrivez pas à vous sauver par vos propres forces. En fait, ici, Jésus, il s'est fait serviteur pour nous. Nous, on n'arrive pas à être serviteur, mais lui, il l'a fait, alors que c'est lui le grand Dieu. C'est lui qui mérite d'être servi. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Dieu s'est incarné, puis il a payé notre dette. Le passage nous dit... En fait, il a donné sa vie. C'est-à-dire que c'est vraiment, il est mort à lui-même. Il a tout donné. Tu vois, des fois, c'est facile de donner un petit peu de ton confort, de tout ce que t'as pas besoin. Mais lui, il donne de sa vie. Et puis, il le fait pour effacer notre péché, pour libérer une multitude de gens. Et c'est intéressant parce qu'il nous dit que c'est pour à la fois payer notre dette, tous nos péchés, tout ce qui fait qu'on est éloigné de Dieu, mais aussi pour nous libérer. Et je trouve ça vraiment cool. Et j'aimerais vous donner, montrer une petite illustration, d'ailleurs pour illustrer ce que ce passage dit. Et j'aimerais peut-être un volontaire désigné, par exemple, le deuxième volontaire désigné à côté de Laurent, si tu veux bien venir sur scène, j'ai besoin de toi pour une petite illustration. T'inquiète, ça va le faire, je vais pas te mettre la honte. Enfin, un peu, non, pas trop. Tiens, tu peux te mettre ici. Et j'invite aussi l'équipe de louanges, si vous voulez venir, pour un petit temps de louanges qui se fera après. Oui, voilà, c'est toi. Ah oui, très bien, tu vas pouvoir tout de suite y aller. En fait, alors, je vais me mettre de ce côté. En fait, Jésus, il nous donne une image ici que il veut nous libérer. Et c'est un peu comme ce sac à dos. C'est comme si, tiens, tu peux te mettre ici. C'est comme, je vais te mettre juste ce sac, vas-y. Voilà. C'est comme si on avait un petit peu un sac, ça va ? Voilà. Ici, vous avez quelque chose derrière votre dos qui est comme un peu nos fardeaux. Et dans la vie, on a des fardeaux. Parfois, on ne s'en rend pas compte et on se dit peut-être, dans la vie, si je veux m'en sortir avec ce fardeau, il va falloir que je bosse comme un fou, tu vois. Je vais muscler, je vais lire des bouquins pour essayer de réussir ma vie à fond. Et au final, bah, tu peux te tourner juste comme ça, je vais montrer ce qu'il y a dedans. En fait, c'est très très lourd. C'est très très lourd ce fardeau. Et il arrive qu'en fait, parfois, on n'y arrive plus à le porter. Ce qu'il y a dans ce fardeau, parfois, on n'en a pas vraiment conscience, mais quand on lit la Bible, on capte qu'il y a des noms dessus. Il y a des choses ici. On le voit un petit peu dans ce passage, c'est l'orgueil. On a comme cet orgueil qui fait qu'on est séparé de Dieu parce qu'on veut se débrouiller par nous-mêmes. On n'a pas besoin de Dieu. Et puis, il y en a d'autres, c'est... Celui-là, il est lourd. La convoitise. On n'est jamais satisfait et on veut toujours les choses qui sont vers les autres. Et parfois, on a... Ah, ça fait du bien, non ? Et parfois, c'est simplement la solitude, mais c'est aussi peut-être des blessures qu'on a et qu'on n'a jamais exposées à la lumière, enfin, qu'on a gardées pour nous. Et il y en a d'autres encore, des fardeaux. Il y a aussi la peur. La peur qui fait que parfois, on se réfugie dans la moindre solution qui nous semble à peu près stable. Mais il y a aussi d'autres choses, le porno. Pour nous, pourquoi c'est grave en fait, c'est que la sexualité, parfois, on ne la fait pas comme Dieu il le veut, et puis ça nous ronge, et ça devient comme une addiction. Il y a des trucs aussi, d'autres addictions, hein, peut-être c'est les écrans, peut-être c'est des choses qui font qu'on n'arrive que à trouver notre sécurité dans ce genre de choses, et on n'arrive plus à s'en défaire. Puis attends, je vais pas tous les sortir, mais je vais te les remettre. Parce que je sens que t'es. Que ça te va bien, en fait. Non, je rigole. Attends, viens, rapproche-toi par là. Attends, faut que j'arrive, parce qu'il va peut-être péter le sac, mais. Ah oui, j'arrive plus à fermer. Attends. Alors, pour finir cette illustration. Voilà. Ça va ? En fait, ce passage, il nous dit, mais ok, tu veux peut-être réussir ta vie en solo, mais Jésus te propose un truc, c'est de décharger tous tes fardeaux à Jésus, en fait. C'est comme si tu veux, par exemple, là, décharger ton fardeau, c'est le donner, en fait. Et c'est le donner à Jésus. Donc, vas-y, si tu veux, tu peux me le filer. Ouais, c'est ça. Et là, Jésus, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il le porte pour lui. Et en fait, le fait de le porter, ça l'amène à la croix. Il s'en débarrasse par la rançon de la croix. Merci. Merci, tu peux prendre ta place. Et ouais. C'est la petite illustration que j'aimerais que vous reteniez. Parce que peut-être vous en avez des fardeaux. Et vous savez peut-être qu'il y a certains fardeaux que vous n'avez jamais vraiment laissés à Jésus. Peut-être qu'il y a des fardeaux qu'on aime garder. Et ici, dans ce passage, on voit que la réussite selon Dieu, c'est croire dans le sauvetage de Christ. Croire qu'en fait, Jésus, il l'a fait pour moi. Il a effacé mes dettes. Il me tend la main, en fait. Et il veut me libérer pour que je puisse lui ressembler. C'est quoi tes fardeaux? C'est quoi tes addictions qui, tu sais, qui t'éloignent du Seigneur? Jésus nous montre que, en fait, à la base, on était appelé à être des serviteurs. On n'était pas appelé à porter tout ça et à se dire « Ma vie, je vais le débrouiller, je vais me débrouiller sans Dieu. » On n'est pas fait pour être des dieux. On n'est pas fait pour gérer notre vie en étant le roi, en fait. Et en fait, si le seul moyen pour se débarrasser de notre fardeau, c'est de devenir serviteur et de reconnaître Jésus comme roi. C'est comme ça que se passe le transfert. Si tu veux, peut-être, t'as envie de lutter, d'avoir la victoire sur ta peur, j'ai envie juste de te dire, il faut que tu commences par déclarer que tu n'y arrives pas. Tu déclares la défaite. Et Jésus, il peut t'aider. Il peut avoir la victoire sur ça. Il peut avoir la victoire sur ton péché. Dieu, il veut t'aider. Qu'est-ce que tu veux faire? Et si c'était le moment que tu lui laisses ton fardeau, et que si c'était le moment que tu lui laisses ta vie, j'aimerais juste prendre un petit temps de prière. Je vous invite juste à méditer sur ce texte. Et peut-être juste incliner vos têtes. Alors, je ne sais pas, vous n'êtes pas tous peut-être croyants. Mais j'aimerais juste qu'on puisse tous se pencher sur ce sujet. Qu'est-ce que moi j'ai à répondre de ça? Jésus, il nous invite. Il nous dit, moi, je veux t'aider, je veux venir dans ta vie. Mais est-ce que je peux être ton roi? Si tu as envie de suivre Jésus, moi je t'invite à prendre cette décision. Si tu ne l'as jamais fait. Et je veux faire un truc, alors qu'on a tout le temps les yeux fermés, la tête penchée, je vous encourage juste à être entre vous et Dieu. Si tu as envie de suivre Jésus, je t'invite à prendre cette décision, à le suivre. Et si tu le fais là, je vais proposer à tous les responsables et les pasteurs qui sont là de vous mettre sur la droite. Et puis si toi, tu as envie de suivre Jésus, si tu as la fardeau lourd que tu veux déposer à Jésus, je t'invite à te lever et puis à venir sur la droite pour prier avec un responsable. Je vais prier pour vous. Jésus, je te remercie pour le Dieu puissant que tu es. Merci aussi parce que tu es un Dieu qui nous a montré qu'il était serviteur et tu as fait ce qu'on n'arrive pas à faire. Et merci parce que tu es venu pour nous libérer. Je prie pour chaque jeune qui est là, qui sait dans son cœur que tu l'appelles. Et je te prie de lui donner le courage de te suivre. Et merci Seigneur parce que quand tu es notre roi, Seigneur, tu nous aides à ne pas craindre le regard des autres. Et tu nous donnes du courage pour nos peurs. Et tu nous guéris de nos blessures profondes. Amen. Si tu es là, tu es invité. Si tu as envie de suivre Jésus, je t'invite à te lever. Et puis, pendant que Ben voilà, vous êtes invité à réfléchir ça. J'aimerais faire un deuxième appel. Peut-être tu sens que Dieu il est en train de te dire quelque chose et qu'il t'appelle à le servir. Et moi, j'aimerais t'encourager. Peut-être, tu ne sais pas comment, mais tu as envie d'être engagé dans la mission de Dieu. Et moi, j'aimerais te proposer de ce soir, de prier avec un responsable pour ça. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de servir, et peut-être qu'il y avait des futurs missionnaires, des futurs pasteurs ici, et tu dis, mais moi j'ai trop envie de suivre ce Dieu-là. Mais j'ai envie de te proposer ce soir de faire comme un pas de foi, en disant, ok, Dieu, je veux te suivre, je veux te servir. Et je veux rentrer dans ta mission. Jusqu'à présent, j'étais timide, mais je veux rentrer dans ta mission. Je t'invite à réfléchir à cet appel. On va chanter un chant. Et pendant qu'il y a ce chant, sens-toi libre encore de venir prier avec un responsable. Je sais qu'il y a Romain aussi qui sera là-bas. Et voilà, on va passer un temps où, à la fois, si tu as envie de chanter, tu peux chanter, mais si tu as envie de répondre à l'appel, moi, je t'encourage à te lever. Je voulais juste vous dire que moi, j'ai pas toujours été croyant. Je suis de famille chrétienne, mais j'avais toujours peur de l'engagement. Et en fait, Dieu m'a montré petit à petit que cette peur, c'était surtout lié à mon orgueil. J'avais peur d'être jugé, j'avais peur, j'étais timide, mais parce qu'en fait, j'avais peur qu'on me critique, j'avais peur du rejet. Et un jour, voilà, à 18 ans, j'ai fait le choix de chercher Dieu. Jusqu'à présent, je ne l'avais pas cherché, vraiment. Et Dieu m'a rassuré. C'est comme si le regard des autres était devenu de moins en moins important. Et j'étais ultra timide à l'époque. Ma femme m'a connu où j'étais stressé à l'idée de parler à deux personnes. Mais j'aimerais juste t'encourager. Quoi que tu aies comme don, et tu sens peut-être que tu n'es pas capable de servir Dieu, ce n'est pas un problème. Si tu ne te sens pas capable, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu, il va t'équiper. Et il m'a équipé. Il m'a aussi donné plein de courage, alors que j'étais vraiment lâche. Et ça, c'est Dieu qui transforme. Alors, ouais, je vous propose de prendre ce chant. Et encore une fois, voilà, on prend ce temps, mais aussi si vous vous sentez de suivre Jésus, de vouloir vous engager avec lui, n'hésitez pas à aller vers les responsables qui sont à la droite. Yes.